pour un temps de témoignage. Voilà, il a dit oui au Christ Jésus. Alors, je crois qu'il va nous dire pourquoi.
On se connaît, je crois. Bonjour tout le monde. Alors, je me présente, Michael Lehenanf. Alors, je suis issu d'une famille chrétienne. Et donc, d'habitude, je voulais pas prendre de notes, mais heureusement que j'ai pris des notes. Parce que ça, c'est... j'ai essayé de faire le plus court. Donc, j'ai mon épouse et 3 enfants. Et donc, à l'âge de 7 ans, mes parents donc, m'ont dirigé vers une assemblée rue Poissonnière. Et là, j'ai trouvé une personne qui s'appelait Michel Cannon, comme par hasard. Incroyable. Et donc après, j'ai connu une autre personne qui s'appelait Jean-Marc et Rémi. Je crois. Hein. Donc, on a pu parler du Seigneur, chanter, etc. Donc c'était très bien, c'était un bon fondement pour apprendre ce que Jésus a fait, etc. Et à l'âge de 12 ans, on est parti dans une autre assemblée, je devais avoir 10 ans, dans une autre assemblée. Et il y avait une réunion donc, de prière sur le baptême du Saint-Esprit. Et à l'âge de 12 ans, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit ainsi que le parler en langue. Donc, qui a été très, très, très puissant. Et donc, dans ma prière, j'ai dit, Seigneur, fais en sorte que ne m'oublie jamais. Jamais, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la vie. Et quand on a 12 ans, on ne voit pas forcément l'avenir. Et donc, du coup... À l'âge de 16 ans, j'ai un petit peu dérapé, dérouté, je suis parti dans le monde. J'étais voir à côté. C'est une grosse erreur, mais j'étais clair avec le Seigneur. J'ai dit au Seigneur, là où je vais, je sais que ce n'est pas des bons endroits, mais je prends le risque. J'ai pris le risque, tout en sachant que où j'étais, ce n'était pas bon. Donc, quand on a 16 ans, on a les copains, etc. Alcool, discothèque, etc. Bagarre, voilà. La totale. Et donc, il a bien fallu s'arrêter au bout d'un certain moment. Je me suis repositionné au niveau du Seigneur. Je me suis dit, fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de bêtises. Et le Seigneur était toujours là. Parce que j'ai échappé à beaucoup de choses. Mes copains ont été en prison, etc. Et voilà. Et beaucoup de personnes sont même décédées. Et à l'âge de 24 ans, j'ai rencontré mon épouse lors de mon travail. Et là, je lui ai parlé directement du Seigneur. Alors, j'étais dans le monde, un pied en arrière. Je n'étais pas encore calé. Et je parle du Seigneur, et donc c'est très important. Moi, je vous dis directement, quand vous êtes confronté, dites directement comment que vous êtes placé au niveau du Seigneur. Il ne faut pas se cacher. Parce que si vous vous cachez, après, la personne risque de dire, ben, moi, je veux pas de Dieu, moi, je veux pas de Jésus dans ma vie. Donc, j'ai parlé du Seigneur, a tout à fait compris. Et du coup... Elle a pris son baptême. Je ne sais pas si vous connaissez Valérie. Si des personnes... Je regarde là. Si les personnes ont assisté à son baptême, donc s'est convertie en Christ. Donc, après, j'ai eu donc beaucoup d'épreuves. Il y a toujours des épreuves. J'ai perdu mon frère. J'ai perdu mon meilleur ami sur de laps de temps. J'ai perdu... ma cousine, mon oncle, etc. Des épreuves très dures. Et donc, du coup, je me suis réfugié dans l'alcool. Et quand je vous dis dans l'alcool, c'est l'alcoolisme total. L'ivrognerie totale. Pour s'en défaire, très chaud. Donc, j'ai fait plusieurs expériences en priant le Seigneur en disant, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête, il faut que j'arrête l'alcool. Je me détruis, je détruis mon entourage. Et ils sont... Et donc, j'ai pu arrêter à des certains moments. Et dès qu'il y avait des épreuves, rebelote. Alcool. Et en puissance, tac, 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 tac. Donc là, très, très, très difficile. Donc, surtout pour prier. Et après, par rapport à mon travail, on me demandait beaucoup trop de choses. Alcool, travail, et à la fin, burn out. Total, blau, cassé, brisé, voilà. Donc, et du coup, je me suis dit, Seigneur, là, je suis vraiment arrivé bas, très, très bas. Et donc, du coup, vu que j'avais consommé énormément d'alcool, j'ai demandé à mon médecin, j'avais été voir mon médecin pour mon fils, pour une licence de sport. Et du coup, je discute à mon médecin et je lui dis... J'ai eu une voix dans ma tête qui m'a dit « Demande-lui pour ton rein. Pas tes reins, ton rein. » Je dis bizarre. Et donc, deuxième fois, « Demande-lui pour ton rein. » Donc, je demande au médecin, je dis « Voilà, il faut que je regarde mon rein. Je ne sais pas pourquoi, il faut regarder le rein. » Il me dit « Mais pourquoi ? Tu veux qu'on regarde le rein ?» Je dis « Je consomme beaucoup d'alcool. » Mais il me dit, ça n'a rien à voir. Il dit, t'as mal au rein ? Je dis, non, pas du tout. Donc, du coup, je lui dis, il faut qu'on regarde. J'ai été au laboratoire, etc. On a regardé. Hop, ils se sont aperçus qu'il y avait une masse au niveau du rein. Et la personne s'est dit, bon, ça doit être une petite masse. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et quand j'ai été faire donc, des examens beaucoup plus profonds, cancer. Alors, quand on vous annonce ça, vous êtes en burn-out, alcool et en plus cancer. Vous vous dites, waouh. Donc très, 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 très difficile. Donc j'ai eu une ablation partielle du rein. Le rein faisait que 3 cm. Beaucoup de médecins m'ont dit, mais c'est incroyable. Comment vous avez fait pour déceler ? Le Seigneur m'a dit, je ne devais pas comprendre, je dis, le Seigneur m'a dit de regarder justement le rein. Ils n'ont pas compris. Ils se sont dit, on ne peut pas détecter un cancer de rein. C'est parce qu'en fin de compte, ça ne fait pas mal en soi. Parce que ça se développe et on ne sait pas. Donc voilà. Et donc, après, arrêt d'alcool. Et puis après, encore d'autres épreuves. Rebelote. Alcool. Et là, j'allais dans la totalité au niveau de l'alcool, pour vous dire un petit peu, la consommation d'alcool par jour, je vais dire en litres, 10 à 15 litres de bière par jour. Donc c'est énorme. On commence du matin, on finit le soir. On commence du matin, on finit le soir, sans cesse. J'ai prié le Seigneur de tout mon cœur. Je dis, Seigneur, il faut arrêter là. Il faut arrêter. J'en ai ras-le-bol avec ça. Ça me pollue la vie, ça pollue la vie de tout le monde. Arrête, arrête, il faut que j'arrête. J'avais consommé beaucoup d'alcool. Je prends ma bière, je bois mon alcool, je regarde mon épouse, je lui dis, c'est incroyable. J'ai bu toute la journée, je suis à jeun. Je comprends pas là. Je dis, j'avais plus cet effet d'alcool. Je lui dis, comment ça se fait que j'ai pas cet effet d'alcool ? Puisque quand on est alcoolique, on va avoir cet effet d'euphorie, on va dire. Et là, je me suis dit, il n'y a plus d'effet. Je suis parti me coucher, je dis, merci Seigneur, c'est incroyable. Je dis, j'espère que demain, je n'aurai pas les pensées. Parce que quand on est alcoolique, on pense directement, le lendemain matin, à consommer de l'alcool. Je dis, Seigneur, j'espère que demain, je n'aurai pas ces pensées-là. Le lendemain matin, je me réveille, rien. Je dis, tiens, plus d'alcool. Envie. Elle n'a plus du tout envie de boire de l'alcool. Donc là, ça a été instantanément. Pas besoin d'avoir un système progressif au niveau de l'alcool. Ça a été clair et net. Donc là, ça fait à peu près 3-4 mois. Je ne sais plus, je ne fais pas attention au temps. 3-4 mois que j'ai arrêté. Et j'en veux pas. J'en veux plus du tout dans ma vie. Donc voilà, c'est fini. Donc, pour résumer, j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épreuves. Je tiens à prévenir les jeunes, toutes les personnes dans la vie. Ma prière de 12 ans a été exaucée car j'ai demandé à Jésus de jamais me quitter. J'ai été dans des endroits que vous n'imaginez même pas. J'ai été alcoolique, allongé par terre, terrible. Et ma prière de 12 ans, Dieu l'a pris en considération. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux témoigner devant vous que Jésus-Christ est mon Sauveur et Seigneur et que je remets toute ma vie en lui. Donc je remercie et je remercie le Seigneur d'avoir pu parler aujourd'hui car j'avais un petit peu de stress puisque ça fait 4 ans que je ne suis plus sociabilisé avec les gens. Donc voilà. Donc je remercie le Seigneur. Je sais qu'il m'accompagne tous les jours. Et vous voyez, c'est par beaucoup d'épreuves, des fois, que Dieu vous redresse. Ça, c'est très important. On n'est pas forcément obligé de passer par des épreuves. Moi, j'ai dû passer par des épreuves. Et j'en passerai peut-être encore, et sûrement. Et c'est par ces épreuves-là qu'on s'aperçoit si on est enraciné en Christ ou si on n'est pas enraciné en Christ. Parce que mon enracinement en Christ a permis que les tempêtes passent. Je ne suis... Aujourd'hui, je n'ai pas été déraciné, puisqu'aujourd'hui, je suis là. Et je vous assure que beaucoup de croyants, j'en ai vu beaucoup, parce que j'étais dans des conventions, etc. Ils ont très vite, un coup de vent, paf, on arrête. Je suis plus le Seigneur. Donc à l'époque, j'avais un pas devant, en Christ, un pas derrière dans le monde. Et bien aujourd'hui, je mets mes deux pas devant, en Christ. Et derrière, c'est fini ce qu'il y a derrière. Voilà. Et maintenant, je vais en avant et je vais donner ma vie et je donne ma vie en Christ. Et maintenant, selon sa volonté, il fera ce qu'il veut de moi. Donc c'est un engagement que je prends avec Jésus-Christ. Amen. Donc voilà. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bon, ça va. J'ai pas été trop long parce que Michel avait peur que ça dure une demi-heure.
En fait, il a demandé à passer le premier pour prendre toute la place. Voilà. Un chemin qui guérit les gens sans passer par moi. Je vais être au chômage. Merci pour ton témoignage, Michael. Nous sommes ensemble pour ce temps de baptême. Trois personnes qui décident de prendre le baptême. Alors, il y a en général une prédication. Elle sera découpée en trois parties. Et j'avais envie d'utiliser trois images ou trois langages différents. Le premier, c'est le langage de l'eau. Pour ceux qui viennent pour la première fois dans une église comme celle-ci, vous pouvez vous poser la question, mais c'est quoi cette pratique étrange? On m'a dit de venir, un proche, une sœur, un père, une mère qui viennent, des cousins qui viennent et qui se disent, on n'a jamais vu ça, alors comment ça va se passer? Or, je réfute ce que vient de dire Michel, nous avions un baptistère. Hein, puisque quand on a loué ces locaux, Pascal est assis sur le lieu où il y avait une grande fosse avec coulement et tout. Et quand il m'a dit qu'est-ce qu'on en fait, j'ai dit oh ben on comble, on la bouche avec du ciment. Et puis 5 ans après, je me suis dit tiens, ça aurait été bien de faire un baptistère là. Donc on continue à pratiquer le baptême d'eau à la mer, le baptême par immersion. Alors pourquoi l'eau dans le baptême? Alors le premier sera le langage de l'eau. Le deuxième sera le langage de l'huile et le troisième, ce sera le langage du sel. L'eau, l'huile et le sel. Et je commencerai par l'eau en disant que dans la Bible, le symbole de l'eau est présent à de nombreuses reprises. Et l'eau représente souvent un passage d'un avant à un aujourd'hui et à un après. L'eau, c'est souvent un passage où le jugement de Dieu passe sur le péché et à l'image des hommes qui prennent ou des femmes qui prennent leur baptême, il y a un avant le baptême et un après, même si c'est symbolique, c'est une manière de dire il y a eu un avant la rencontre avec Christ et un après. Et l'eau, c'est ce moment du passage. Des hommes qui s'étaient éloignés, séparés de Dieu, et l'eau a enseveli le péché. On peut penser au déluge dont sont sortis Noé et sa famille. Un monde nouveau, une humanité qui se reconstruit. Le baptême parle de cela, d'un nouveau commencement, d'une vie différente, d'une vie nouvelle. J'ai rencontré Dieu et cette rencontre a été possible parce que Christ a résolu ce qui m'était impossible à accomplir. À la croix, il a vaincu la mort et le péché. Prendre son baptême, passer par les eaux du baptême, cela a ce sens. Alors c'est pour ça que c'est un baptême par immersion. À l'image de Christ qui est rentré dans le tombeau pendant 3 jours, 3 nuits, eh bien, celui qui est baptisé meurt à son ancienne vie, mais ressuscite. J'avais un des fondateurs de l'église apostolique au Danemark qui rencontrait un homme, c'était un homme assez riche, ce pasteur, et il rencontre un notable qui lui dit, vous savez, il y a une église bizarre dans notre ville. Lui fait semblant de ne pas savoir qu'il parle de son église. Il dit, ah bon, qu'est-ce qu'il y a comme bizarrerie dans cette église ? Ce qu'on m'a dit, c'est que quand les gens croient, ils prennent un baptême. On les plonge dans l'eau. Oui, et alors, qu'est-ce qui est bizarre en cela ? Ben écoutez, on les plonge dans l'eau et il paraît qu'ils attendent pour les ressortir qu'il y ait une colombe qui descende du ciel. Ça doit faire des victimes, ça, les baptêmes. La vie du chrétien doit être courte. Non, le baptême d'eau, c'est une immersion où on dit... Comme Christ est mort, mais il est ressuscité, moi je rentre dans la même dynamique. Je meurs à mon ancienne vie et je ressuscite dans une vie que je veux nouvelle suite à cette rencontre avec Christ. Alors, est-ce que le baptême a une valeur en lui-même ? Est-ce qu'il est essentiel à mon salut ? Est-ce que si je ne prends pas mon baptême, je vais rater quelque chose ? Non, il n'y a pas de valeur au baptême. Pour ceux qui sont mariés, il y en a peut-être qui ont ce petit objet-là à leur doigt. Non ? Il y en a qui sourit. Il y en a même un qui dit j'en ai deux. Mais une suffit, hein ? Est-ce que l'alliance que nous portons quand nous sommes mariés est suffisante pour assurer un mariage à vie ? En fait, cet anneau, même s'il est en or, je dirais, n'a aucun pouvoir s'il n'y a pas intérieurement un engagement et le désir de persévérer pour le vivre. C'est un symbole de ce qu'il y a à l'intérieur. Le baptême, c'est quelque chose de visible que vous allez voir, entendre, comme nous venons de le faire, mais ce n'est que l'image de ce qu'il y a à l'intérieur de celui qui prend son baptême et qui le montre. Combien d'hommes et de femmes ont porté une alliance ? Et le porte ostensiblement, mais l'engagement qu'il représente, s'il est au doigt, n'est plus dans le cœur. Combien d'hommes et de femmes ont pris leur baptême, et dans leur cœur, au fil du temps, l'amour s'est effiloché pour Dieu, et ils et elles se sont éloignés de ce Christ avec lequel ils s'étaient engagés. Le baptême d'eau, s'il ne fait pas référence à une réalité intérieure, n'a pas beaucoup de valeur. Là aussi, on peut, comme pour les chaussures, les vestes, les sacs à main Hermès, il peut y avoir des contrefaçons. Il y a Jean-Baptiste, pour ceux qui connaissent l'histoire de Jean-Baptiste, qui baptisait avant que Jésus ne prenne son baptême. Il baptisait. Et puis un jour, il a vu arriver des prêtres juifs qui lui ont demandé le baptême. Et il leur a répondu, ce qu'on n'a pas fait aux trois personnes qui sont venues demander le baptême, il leur a répondu, « Race de vipères !» Oh, montrez par vos actes que vous avez changé de vie. Moi, je vous baptise dans l'eau en signe de votre changement de vie. C'est ce que nous dit l'évangile de Matthieu. Les baptêmes que nous allons voir aujourd'hui, c'est deux hommes et une femme qui disent « J'ai changé de vie ». On l'a entendu dans le témoignage de Michael, on l'entendra encore pour Mélissa et pour Samuel. Le baptême fait référence à un changement intérieur. J'ai rencontré quelqu'un qui change et qui transforme ma vie. Donc, il y a une cohérence entre ce que je fais et ce que je vis à l'intérieur de moi. L'important, je vais peut-être choquer certains, c'est pas le baptême. C'est la rencontre avec Dieu. De la même manière que l'important, c'est pas le mariage, la fête d'une journée, les invités qui viennent comme aujourd'hui, qui regardent un engagement. Non, c'est le désir, l'engagement que se prennent et l'amour qu'il y a de vivre une relation, d'avoir fait une rencontre et de désirer rester dans cette relation jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. 36 ans que j'ai pris cet engagement. Pas de regret. Chez elle, je ne sais pas. Mais de mon côté, pas de regret. Qu'en est-il de votre relation avec Dieu? Du jour de votre baptême, si vous l'avez pris. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours dans ce même amour? Cette même relation. Le baptême protestant parle au niveau de l'immersion, de mort, on va dire de noyade. Mais c'est un acte qui proclame aussi la vie, la nouvelle naissance, la vie nouvelle. C'est Paul qui disait, c'est par la grâce, l'amour immérité de Dieu, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. Oh, regardez ce que j'ai fait. Je suis arrivé au baptême. Vous avez vu le chemin que j'ai parcouru? Non, c'est simplement au moment du baptême, la proclamation que la grâce, le cadeau de Dieu qui m'est fait en Jésus-Christ, je l'ai saisi. Quand on vous fait un cadeau, si c'est un vrai cadeau, on ne le prend pas en se disant « Waouh, il sait enfin la valeur que j'ai. Il me fait un cadeau. » Non, un cadeau qu'on reçoit quand il est bien fait, c'est un gâteau, pourquoi pas, mais un cadeau qui est le fruit de la grâce et de l'amour. Le baptême d'eau, c'est aussi sortir de l'eau. On va les ressortir, rassurez-vous. Je dis ça pour ceux qui viennent et qui n'ont jamais assisté à... On les ressort, hein. On ne les laisse pas en apnée. Non, on les ressort. Comme disait quelqu'un, j'ai pris mon baptême, ma vie est nouvelle, j'ai décidé. Le vieil homme est mort au baptême, mais bougre, qu'est-ce qu'il sait bien nager, hein, ma vieille nature. Non, on ressort, parce que ça parle aussi, le baptême d'eau, de vie et de vie nouvelle. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. À cause du grand amour dont Dieu nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. Et par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités. 7 ans, quand il est rentré dans l'église, alors tu peux remercier tes parents, même qui sont là. Hein, voilà. 37 ans, ouais. 37 ans, c'est aussi un merci à Dieu, mais un merci à ses parents qui un jour ont dit, voilà, il faut que tu puisses entendre parler de Christ. Le jour de son mariage, mon fils m'a pris dans ses bras à la toute dernière minute de la soirée pour me dire combien il m'aimait. Et je lui ai dit, tu sais mon fils, pour moi, c'est important que j'ai pu être le père imparfait que j'ai été. Mais ce qui était le plus important quand je t'ai pris dans mes bras, la première fois, c'était de me dire, pourvu que cet enfant puisse rencontrer Christ. Je vous assure que c'était la première pensée. Je veux dire, vivre toute cette vie avec lui sur cette terre, c'est bien. Mais quelle responsabilité avons-nous pour que nos enfants puissent vivre l'éternité avec leur Père ? Quelle responsabilité pour les parents de Michael de se dire, c'est bien de l'aimer ici, mais pouvoir l'aimer en faisant qu'il rencontre Christ. Alors, nos chemins sont parfois différents, mais mon fils m'a regardé, il m'a dit, mais j'avais jamais pensé à cela. Et lui qui est devenu père aujourd'hui se dit la même chose. Quelle responsabilité avons-nous de conduire nos enfants sur la voie de l'éternité. Le baptême d'eau parle d'une nouvelle vie, d'une vie nouvelle où les murs tombent, les perspectives changent. Et c'est ce que nous disent ceux qui témoignent. Le langage de l'eau.
À nouveau avec des choses.
Bonjour tout le monde. Alors, j'ai toujours cru en Dieu. Depuis l'enfance, je me posais des questions. À quoi sert la vie ? Moi là-dedans, je sers à quoi ? Et où va-t-on après la mort ? Je me suis tournée vers l'ésotérisme pour avoir les réponses. J'ai un peu abrégé toute ma vie. Et puis un jour, il y a 5 ans, alors que j'étais dans ma chambre, c'est vrai que c'était une période où ces questions revenaient, c'est revenu à ce moment-là, Dieu m'a touchée sur le front. J'ai eu l'image d'une main géante qui m'a touchée du bout du doigt. Ce fut le plus beau jour de ma vie. J'ai été remplie d'amour. Il a guéri des maux de ventre et un mal de dos chronique. C'était fini le kiné. Ce jour-là, ma conscience a changé. Mais je ne connaissais pas encore Jésus. J'ai nourri ma soif avec encore plus d'ésotérisme et encore plus de pratiques. Mais plus les années passaient, et moins j'allais bien. Je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais pas que ce que je faisais était mal. Et il y a un peu plus d'un an maintenant, j'ai découvert, grâce à des vidéos YouTube, que mes pratiques, Dieu les avait en horreur. Cela m'a saisie immédiatement. J'ai demandé pardon. J'ai mis le genou à terre ce jour-là. Et j'ai demandé pardon. Je ne connaissais toujours pas encore Jésus. Mais cela n'a pas plu à l'adversaire. A commencé une période dure, cauchemar, attaque. Je devenais folle. Et vraiment. Là encore, grâce à une vidéo YouTube, j'ai découvert que Jésus était le sauveur. Je l'ai immédiatement appelé au secours. Et là, je l'ai senti agir de suite. Et depuis, chaque jour maintenant, j'ai brûlé mes livres ésotériques et je lui ai donné ma vie, car il m'a sauvée et je lui la dois. Il est mon sauveur. Celui qui m'a guéri et celui qui m'offre la vie éternelle. Je lui dois tout.
Le premier témoignage me montrait que finalement Dieu peut guérir et intervenir dans la vie d'un homme sans que le professionnel en addictologie ait à intervenir. Le deuxième témoignage me montre que Dieu peut amener à la conversion et au baptême du Saint-Esprit, quelqu'un sans que le pasteur intervienne. C'est dur pour moi. Mais quel beau témoignage, ces deux témoignages qui disent, voilà, le travail se fait entre moi et Dieu. La rencontre se fait entre moi et Dieu. Et c'est cette rencontre-là qui change ma vie. Quand vous entendez ces témoignages, si parmi vous il y en a qui ne connaissent pas encore ce qu'est la relation avec un Dieu qui souhaite vous rencontrer, un Père qui peut vous rencontrer et vous révéler son amour, écoutez ce qui vient de vous être dit dans les deux témoignages. Il est rencontrable. J'irai même plus. Il veut nous rencontrer. Il veut nous dire que cette croix plantée à Golgotha il y a 2000 ans, ce n'est pas une anecdote de l'histoire. C'est le signe d'amour le plus profond d'un Dieu qui dit « Je veux te rencontrer, je veux te dire mon amour à toi, à toi. » Le langage de l'eau, le langage de l'huile. Quand le Seigneur a pris son baptême, il y a eu une colombe qui est descendue sur lui. Hein ? C'est dans l'évangile de Marc au chapitre 1, verset 10, on voit l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et le Saint-Esprit, c'est cet Esprit de Dieu qui vient pour nous conduire. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. » On a connu tellement d'hommes et de femmes qui ont essayé de comprendre Dieu par l'intelligence, par notre esprit ou notre intelligence personnelle. « Je vais découvrir Dieu. » Mélissa dit dans son témoignage « J'ai cherché. » Et le pasteur YouTube, qui était là, lui a donné des directions, mais dans un premier temps, c'était des directions que proposait le monde et que propose l'adversaire. Mais même cet espace-là est investi par Christ. On pourrait dire, regarde quelle est la bonne direction. Et quand Jésus s'adressait à ce vieillard, chef d'Israël, intelligent, membre du Sanhédrin, c'était une des sommités de Jérusalem, il dit, mais si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tout le restant ne sert à rien. Et Nicodème a compris qu'il fallait que le Saint-Esprit lui révèle qui est Dieu et comment Dieu pouvait changer sa vie. Ah, est-ce qu'on est prêt à laisser le Saint-Esprit conduire notre vie aujourd'hui? Ce que nous disent les trois personnes qui prennent leur baptême, c'est ça. Je veux que ma vie prenne une autre direction. Je veux trouver la vérité, ce qui est vrai, bon, juste, pour Dieu et pour moi. Alors, l'huile représente l'Esprit Saint. L'onction, dans le peuple d'Israël, c'était quelques gouttes d'huile qu'on mettait et qui représentait l'Esprit de Dieu, capable de conduire le peuple d'Israël, les premiers chrétiens et nous aujourd'hui. Jésus a dit à ses disciples à un moment donné, juste avant la crucifixion, « Il vous est préférable que je m'en aille. » Attends. T'énerve pas, Seigneur. J'imagine Pierre discutant avec Jésus en disant, « On ne va pas s'énerver quand même. Hein. Assieds-toi, qu'il soit préférable que tu t'en ailles. » Ben non. Pour nous, le mieux, c'est que ce serait que tu restes là, au milieu de nous, et que tu continues. Non, il est préférable que je m'en aille. En cela, il parlait de la croix qui allait être la réponse du Père pour la réconciliation de l'homme avec lui. Mais il disait aussi, il est préférable que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il parlait du Consolateur, c'était l'Esprit de Dieu. Si je m'en vais, l'Esprit Saint va venir. Et c'est ce que nous a dit Mélissa. L'Esprit Saint lui a ouvert les yeux. Nul ne peut dire « Jésus-Christ est mon Sauveur ou mon Seigneur » si ce n'est l'Esprit-Saint qui, en lui ou en elle, ouvre les yeux et dit « Mais oui, c'est une évidence. Le chemin est là. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Ce chemin est là. » Et c'est l'Esprit-Saint qui conduit dans la bonne direction. Alors, comme l'huile qui brûlait dans les lampes, et c'est ce que nous dit l'évangile de Matthieu, l'huile brûle dans les lampes pour éclairer, pour repousser les ténèbres et montrer ce qui est notre route, eh bien, le Saint-Esprit est là et témoigne dans la vie de ces trois personnes qu'il les conduit dorénavant dans la bonne direction, dans de bonnes choses. Comme l'huile qui entre dans la composition de nombreux mets, j'ai envie de dire que l'Esprit-Saint nourrit ceux qui ont reçu son onction. Parce que l'Esprit-Saint va continuer pour vous, pour nous, et je l'espère pour ceux qui souhaitent s'approcher de lui, vous nourrir de qui est Christ, de qui est le Père. Faire grandir en vous cette connaissance de Dieu. L'Esprit-Saint va vous nourrir. comme l'huile qui servait aussi de médicament. Vous savez qu'on mettait beaucoup de médicaments à base d'huile pour guérir les blessures. L'Esprit Saint est un Esprit Saint qui guérit. Michael nous en a parlé un peu. Mélissa aussi, certainement sa belle. Comment l'Esprit Saint guérir les blessures que nous portons? Dieu ne nous laisse pas comme ça en disant « Bon, je veux que tu me connaisses, puis que maintenant tu me suives. » Sans s'occuper dans le détail de tout ce que nous sommes. Les blessures les plus cachées, celles que nous ne disons pas. Les meurtrissures que nous portons. Les doutes, les peurs, les craintes. Y a-t-il un homme, une femme ici qui n'a pas de blessures liées au passé, à son histoire, etc. Nous sommes tous porteurs de ces blessures. Le Saint-Esprit est là avec cette onction d'huile pour guérir nos vies. Comme l'huile était aussi l'huile sainte à base de parfum, un parfum, quelque chose qu'on peut répandre autour de soi, eh bien l'onction, le Saint-Esprit fera de vous aussi des hommes et des femmes qui portent le parfum de Dieu au milieu de ce monde. Quand on regarde le monde, on se dit « Ouh, combien c'est sombre, difficile, douloureux, ça ne sent pas forcément bon. » Mais est-ce que l'Église est constituée d'hommes et de femmes qui sont revêtus de cette onction de l'Esprit Saint, qui fait d'eux des hommes et des femmes qui portent le parfum de Dieu ? De la réconciliation, de l'amour, de la douceur, de la paix. Le monde a besoin de ce parfum-là. Puis enfin, je dirais, l'huile, c'est aussi ce qu'on met. Alors là, c'est mes lointaines connaissances en mécanique, j'en ai eu, qui disent que l'huile, ça permet aussi de mettre de la douceur dans les rouages. Hein, ça permet de faire en sorte que les relations soient différentes. Est-ce que l'Esprit Saint fait que cette huile, cette onction-là, fait que dans mes relations aux autres, dans l'Église, dans ma famille, parce que c'est bien d'avoir de l'huile dans les rouages au niveau de l'Église, mais si quand je rentre à la maison, je me dispute avec mon conjoint, avec mes enfants ou avec mes parents, où est l'huile, où est l'onction, où est le Saint-Esprit? Est-ce que cet Esprit-là met de la douceur et de l'amour dans mes relations aux autres? Le langage de l'huile.
Allez, je vous propose encore deux chants avant le temps.
Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Samuel Huenanf, le fils du chauve qui est passé en premier.
Méfie-toi, ça arrivera.
Non, donc... Pour commencer, donc j'ai 17 ans. Donc 17 ans que je connais Dieu, donc c'est-à-dire que j'ai la connaissance que de Dieu, Jésus-Christ, qu'il y a quelque chose après la mort, etc. On va dire que ça 10 ans que je vis pour Dieu, donc j'ai accepté dans ma vie que je crois en lui. Et en un an. À quasiment à une semaine près que j'agis tous les jours pour lui et puis que je suis à l'écoute. Donc ça, c'est différents stages à peu près dans ma vie. Donc comment j'ai fait pour venir ici? Tout simplement, quand j'étais petit, j'ai eu des parents, du coup une famille chrétienne. Donc c'était dans la logique que j'ai entendu parler de Dieu, etc. et que je suis venu ici à l'Assemblée. Quand j'étais tout petit. Après, on m'a dit c'est bien beau de connaître Dieu, connaître Jésus, mais maintenant il faut y croire parce que en croyant en Dieu et en Jésus-Christ, tu peux vivre l'éternité heureux et dans la joie. J'ai accepté ça, j'avais à peu près ouais, moins de 10 ans à peu près. Et donc ma vie a passé, etc. Et il y a un an, j'étais un peu perdu. Et il y a un an, je me suis fait opérer. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, d'une péritonite à l'appendicite. Et puis, c'était pas évident parce que, sur le coup, j'étais un peu choqué parce que du jour au lendemain, j'ai eu des douleurs, etc. Je me retrouve à l'hôpital alors que je venais de reprendre les cours. Et dans la salle d'hospitalisation, on me dit qu'on me prend d'urgence parce que sinon, je passerai pas la nuit. Enfin, voilà, quoi. Et à ce moment-là, j'ai accepté. Je me suis dit, OK, pas de problème. Dieu, fais en sorte que tu m'oublies pas et puis garde-moi, quoi. Et c'est produit. Les médecins ont fait leur travail. J'ai pu me réanimer tranquillement. Et à ce moment-là, où j'étais... où les infirmières me prenaient soin de moi. À un moment donné, ils m'ont dit « va te laver ». Donc j'étais avec mes lingettes, etc. Et à ce moment-là, quelqu'un a appelé cette infirmière pour aller voir quelqu'un d'autre. Du coup, pendant à peu près 5-6 minutes, je me suis retrouvé tout seul dans la salle de bain en train de me laver. Et à un moment donné, je me suis regardé dans le miroir et j'ai reçu l'onction. Donc c'était assez bref quand même, c'était à peu près une dizaine de secondes. Et à ce moment-là, j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, tu vis pour Dieu, etc. Et maintenant, il faut agir, il ne faut pas rester passif quand même. Et j'ai accepté, j'ai eu l'affirmation en me disant de prendre mon baptême, parce que c'était la suite logique pour pouvoir... agir et reprendre une nouvelle vie pour Dieu et pour agir pour Dieu. Donc je ne me suis pas tellement posé de questions, etc. J'ai foncé, je me suis dit, à peu près quelques heures après, j'ai annoncé ça à ma mère. Il y a Jean-Marc et puis Laurence qui sont venus me voir à l'hôpital. Je leur ai dit directement. C'est vrai que j'ai été cash dès que tu es arrivé. Et du coup, un an à quelques semaines, je me retrouve ici devant vous pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, je suis là pour Dieu, pour Jésus-Christ et que j'accepte en tant que mon sauveur. Et je vais passer par les eaux pour revivre de nouveau. Voilà.
Amen. Troisième témoignage, j'ai rien fait à nouveau. À quoi je sers dans cette église? En fait, je me réjouis tellement, on disait avec Francine, c'est tellement merveilleux de voir comment Dieu agit dans les vies, comme cela, dès lors qu'un cœur est sincère. Je te cherche. J'ai besoin de toi. Et dès qu'un cœur est dans cette attitude et cette position, alors, tout naturellement, Dieu se présente. Christ disait dans l'Apocalypse, « Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvrira, j'entrerai et je mangerai avec lui. » Les trois témoignages nous parlent de cela. Quelqu'un qui a dit « Oui, entre dans ma vie, Seigneur. » Le langage du sel, le dernier langage, et j'y tenais à ce langage du sel, c'est l'évangile qui dit ceci, « Si le sel perd de sa saveur, avec quoi le salera-t-on » Je ne sais pas combien de baptêmes j'ai pu vivre dans l'Église depuis que je suis au Seigneur. Moi, j'ai pris mon baptême à 16 ans et demi et j'ai servi Dieu assez rapidement, mais... Ça fait quelques années, j'en ai vu passer par les eaux du baptême. J'en connais aujourd'hui qui ont gardé la saveur de ce qu'ils ont dans leur relation avec Dieu. Et malheureusement, j'en connais aussi qui ont perdu cette saveur, qui se sont éloignés. Et pas seulement dans l'Église, même au collège biblique, il y avait des jeunes qui se formaient et puis qui, quand on On regarde 20, 30, 40 ans après, où sont-ils ? Comment le sel a pu perdre de sa saveur ? Un sel sans saveur. Chez les Sémites, dont le peuple d'Israël, le sel, il avait plusieurs usages. C'était un condiment pour relever la saveur des aliments. C'était aussi quelque chose qui permettait de conserver les aliments. Et puis, il y a l'expression qui dit « manger le sel de quelqu'un », ça signifie « manger son pain » ou « être attaché à sa maison ». C'est-à-dire « travailler pour lui ». C'est de là que vient le mot « salaire ». Manger le sel de quelqu'un, c'est travailler pour. Vous, vous engagez dans les eaux du baptême. Et après, c'est une belle journée, on se réjouit. Mais et après, quelle sera la manière dont le goût que vous avez aujourd'hui pour l'Église et pour ceux qui vous entourent perdurera dans le temps? Un grand philosophe, Patrick Bruel, disait « Rendez-vous dans 10 ans. » Chiche ! Samuel, Michael, Mélissa, rendez-vous dans 10 ans ? Pour voir comment vous avez gardé la saveur de votre relation avec Dieu et le sel que vous êtes au milieu de cette Église. Demain, que serez-vous ? Quelle saveur apporterez-vous à l'Église de Christ ? Dans vos familles, dans vos relations ? Je vois vos proches qui sont là. Ouais ? Quelle saveur aurez-vous pour leur témoigner ? Oh, pas par une prédication tous les matins au petit déjeuner, je déconseille, ça fait fuir. Mais dans la manière d'être en relation avec Dieu, dont Dieu vous transforme, et que cette relation vous donne d'être une saveur particulière d'amour, de paix, de douceur, mais aussi de conviction. Voilà ce que je suis. C'est cela le sel qui a de la saveur. Les chrétiens constituent le sel de la terre. Comment peut-on comparer les chrétiens dans cette métaphore ? Est-ce que c'est le rôle d'être un disciple de Christ, d'être transformé à l'image de Christ pour donner une saveur différente de ce que ce monde peut proposer dans mes attitudes, mes comportements, mon service aussi pour Dieu. Un langage assaisonné de sel, pas de vinaigre, de sel, c'est pas la même chose. L'apôtre Paul parlait aux Colossiens en disant « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors », c'est-à-dire ceux qui vous entourent et qui ne sont pas à Christ. « Et rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Le Saint-Esprit en nous, dont on parlait tout à l'heure, le langage de l'huile, avec la saveur du sel, nous permet de pouvoir donner une parole qui puisse faire du bien, qui puisse guérir, qui puisse apporter la lumière à ceux qui en ont besoin. Christ était de cette nature-là au milieu des hommes. Est-ce que vous serez, est-ce que nous serons dans l'Église ? Est-ce que ceux qui sont là veulent avoir cette position dans le monde ? Il y a un texte que j'aime bien, c'est dans Job 6:6. Peut-on manger ce qui est fade ? Peut-on manger ce qui est fade et sans sel ? Y a-t-il de la saveur dans un blanc d'œuf ? Vous aviez déjà lu ça ? Est-ce qu'il y a de la saveur dans un blanc d'œuf ? C'est vrai qu'un blanc d'œuf, les sportifs mangent, je crois que c'est le blanc d'œuf et laissent le jaune de côté, c'est ça, pour avoir les protéines sans les inconvénients. Mais le blanc d'œuf, quand même... Ça n'a pas beaucoup de goût si on ne met pas du sel dessus. Est-ce qu'on peut être des chrétiens qui devenons fades, semblables à des blancs d'œufs au milieu de ce monde ? Ça ne donne pas envie. J'aime bien les îles flottantes. C'est léger. Mais il faut être honnête, s'il n'y avait pas la crème pâtissière autour, ou la crème qui va avec, ce serait un peu léger. Moi, j'aime ce qui est solide. Est-ce que les chrétiens sont des blancs d'œufs au milieu de ce monde, des hommes et des femmes sans saveur? Comment peut-on manger ce qui est fade et sans sel? En fait, le mot qui est dans ce verset, c'est dans le verset « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on » En fait, la traduction exacte, ça serait « Mais si le sel devient fou ?» Si le sel devient fou et perd sa saveur. Moi, je vous le dis, votre témoignage me fait du bien et fait du bien à l'Assemblée. Mais abandonner la force de ce que vous vivez aujourd'hui et le laisser partir en déliquescence, ce serait de la folie. Si le sel devient fou, et il y a tellement d'enfants de Dieu qui perdent cette force liée à cette rencontre avec Dieu, qui perdent cette présence de l'Esprit-Saint qui les anime, qui les conduit, qui les dirige. Vous êtes du sel au milieu de ce monde. Ne soyez pas fous. Demeurez, grandissez dans ce que Dieu vous donne. Et puis, aux chrétiens que nous sommes, les témoignages qui sont donnés ce matin devraient nous interpeller. Est-ce que j'ai le même amour? Est-ce que j'ai gardé le feu du premier amour? Ou est-ce que c'est parti? Est-ce que mon alliance avec Dieu est devenue une alliance qui est un petit peu plus légère, lointaine? Non, Seigneur, je ne veux pas devenir fou. Je veux garder cette puissance, cette force de ta présence en moi. Je veux rester ce sel qui donne du goût à la communauté, à ma famille, au monde dans lequel tu me places. Le sel est une bonne chose. Vous êtes, Michael, Mélissa, Samuel, vous êtes une bonne chose pour cette Église. Vous êtes une bonne chose pour ce monde. Demeurez dans la force et la puissance de votre témoignage et de cette rencontre que vous avez faite avec Christ. Le langage de l'eau, le langage de l'huile, le langage du sel. Je vais demander à Abiba de s'approcher avec Francine, parce qu'elle m'a dit « Je veux bien faire quelque chose ». Elle a envie de nous apprendre.